Bonjour, c'est le premier numéro de l'émission Le Fil du Fer sur FM+, 91 FM à Montpellier. L'actualité plus ou moins actuelle des projets en tout genre. Peu importe les notes en musique, ce sont les sensations produites qui comptent. Léonid Pervomaïski, poète soviétique ukrainien. Julien Guillama, entre autres activités professionnelles, vous êtes violoncelliste, compositeur, enseignant, directeur de festival. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Moissac, dans le Tarn et Garonne. Vous vivez à Montpellier, après plusieurs années passées en Angleterre. Le projet que vous avez concrétisé est le Festival international de musique, Klang, électroacoustique. Mais d'abord, parlons un peu de vous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Partons de là. Avec le violoncelle, votre instrument de musique, c'est l'Acousmonium, un orchestre de haut-parleurs destiné à jouer des compositions électroacoustiques. Comment envisagez-vous la vie? En mono ou bien en stéréophonique?
Ni l'un ni l'autre, je dirais en multiphonique. J'ai besoin de plus de deux haut-parleurs. C'est un peu une métaphorie pour dire aussi que c'est la passion qui motive toutes ces choses.
D'accord, et donc la passion, c'est justement un des thèmes de cette émission, un des sujets qui sera développé au fur et à mesure des éditions. Et la passion, quand on est un enfant né dans le Tarn-et-Garonne, la musique, la passion de la musique, comment est-ce qu'elle vient, quand est-ce qu'elle vient?
Elle vient à travers plusieurs modes. J'ai grandi en face d'une église. Une très très belle église romane, une abbatiale, l'abbatiale de Moissac. Et donc forcément, il y avait l'orgue qui était très présent dans ma vie. Je connaissais même l'organiste, Elvire, elle s'appelait. Et donc ça a été mon premier, je pense, vrai contact avec cette musique. Et bien que mes parents en écoutaient un petit peu, mais c'était plus de la musique pop, on va dire, qu'ils écoutaient. Et puis très vite, je suis rentré à l'école municipale de Moissac, où j'ai appris le violoncelle à l'âge de... J'ai commencé la musique à 5 ans et le violoncelle à l'âge de 7 ans.
Alors c'est une question qu'on pose assez souvent pour les musiciens et les compositeurs. Est-ce que votre famille est une famille de musiciens?
À part une grande tante éloignée qui était chanteuse d'opéra et son père était professeur au Conservatoire de Paris, j'ai un autographe même de Gabriel Fauré qui porte mon nom dessus. À part eux, non, absolument pas.
Et le lien, est-ce qu'on peut faire un lien entre les orgues, cet instrument gigantesque, et le fait que vous avez un autre instrument avec des haut-parleurs, je crois plusieurs dizaines de haut-parleurs. Est-ce que votre compréhension et appréhension du son et de la matière sonore vient des orgues et vous le retrouvez ensuite dans votre travail de compositeur et de musicien?
Alors c'est un rapprochement intéressant. Je pourrais dire que oui, même si j'ai jamais vraiment songé à ce rapprochement. C'est peut-être quelque chose qui est venu. En tout cas, moi, c'est venu plus du fait que quand j'ai commencé à écrire de la musique, en fait, très vite, je me suis aperçu que le monde instrumental m'enfermer dans un carcan, dans le sens où j'arrivais pas trop à exprimer des nouvelles choses avec l'orchestre symphonique classique. Et la porte de l'électroacoustique, des nouvelles technologies, ça a ouvert tout un univers qui permettait de me sentir beaucoup plus libre dans les sons que je voulais exprimer, les sons que je voulais créer et les choses que je voulais exprimer, en fait.
L'écriture, vous avez parlé de l'écriture quand vous avez commencé à composer. C'est vers quel âge et est-ce que c'est tout de suite vers l'Acousmonium, pardon, que vous êtes tourné?
Alors l'Acousmonium, non. J'ai toujours eu un désir de création. Je pense que j'ai commencé la musique en fait à travers cette création. Parce que je me rappelle quand j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans, jusqu'à mes 6 ans. Je faisais ce qu'on appelait l'éveil musical et c'était vraiment basé sur la créativité finalement. Et puis après j'ai fait aussi du théâtre musical où là on crée carrément des pièces de théâtre musical. Et donc c'est là je pense qu'est né ce désir de créativité. Mais finalement il a fallu attendre mes 25 ans. Et l'arrivée en Angleterre pour me plonger vraiment dans la composition. Et non, j'ai commencé par un parcours tout à fait classique, composition instrumentale classique. Et c'est en découvrant, moi je connaissais déjà le milieu électroacoustique puisque j'ai eu un parcours assez musical, assez riche. J'ai fait des études au lycée aussi, où j'ai découvert un peu ce que c'était que la musique électroacoustique. Et donc quand je suis arrivé là-bas, c'était l'opportunité de commencer aussi à mettre un pied dans un studio.
Mettre un pied dans un studio. Et alors, quelle est l'émotion quand on met pour la première fois un pied dans un studio ? Là, on est dans un studio, mais vous avez connu déjà d'autres expériences de ce type. Mais la première fois ?
Alors, un studio, c'est pas très excitant. C'est un ordinateur avec des haut-parleurs. Mais ce qui est excitant, c'est la création et le mode opératoire de cette création. Puisque contrairement à un compositeur classique qui va imaginer la musique dans sa tête et la coucher sur du papier, mais il ne l'entendra pas jusqu'au moment de la création, quand il y aura soit l'orchestre, soit l'instrument qui va jouer sa pièce, sinon elle est dans sa tête. On peut dire que c'est une manière un petit peu abstraite de composer. Là, dans le studio, on se confronte directement au son et en fait, on entend directement, on travaille la matière directement. Un peu comme un sculpteur travaille la pierre, il ne travaille pas une abstraction de la pierre. Il fait peut-être des croquis avant sur son papier, ça c'est de l'abstrait. Mais dès qu'il attaque la pierre, il devient dans le concret. Il voit de suite l'effet qu'il a sur la pierre. Nous c'est pareil, dans le studio, on interagit sur le son directement et on entend directement ce que ça donne. Et ça c'est une façon de créer et de penser la musique qui m'a tout de suite séduit fortement en fait. Enfin, j'étais directement dans le son et j'étais plus dans la perception du son, dans l'imagination du son.
D'accord. Et donc j'ai vu déjà vu certaines de vos œuvres, entendu certaines de vos œuvres. Et il y a l'utilisation des platines, l'utilisation des ordinateurs. Et j'aimerais savoir comment ça se compose une œuvre électroacoustique.
Comment ça se compose ? Eh bien. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore de recette miracle. C'est moi ce qui de la façon dont je travaille, c'est un peu j'essaie de trouver ce son, le son qui va faire que la pièce va commencer à exister, l'œuvre musicale va commencer à exister. Et en fait, ça vient aussi une grande part de ce travail, c'est aussi ce que j'appelle la serendipité, donc un terme qui vient de l'anglo-saxon serendipity, qui en fait s'applique plus aux sciences. C'est par exemple, je donne un exemple tout bête, un chercheur qui est en recherche dans le cancer, d'un coup va découvrir quelque chose, mais ce sera pour guérir la malaria par exemple ou quelque chose comme ça. Donc, il a chercher quelque chose, il n'a pas trouvé, mais par hasard, il a trouvé quelque chose qui est tout aussi important et que bien sûr il ne va pas abandonner parce que c'est très utile pour l'humanité et tout ça. Donc c'est un peu pareil dans mon studio, je cherche un son et parfois, plus souvent que ça même, je trouve un son qui m'amène dans une direction complètement différente, qui est vraiment inattendue. Et donc ce fruit du hasard est très important dans ma composition. Mais c'est ce son initial, ce son source, on peut dire, ce son souche, qui va constituer la pièce tout entière. C'est le point de départ. Et puis on construit tout autour avec ce son-là, souche, qu'on essaie de modifier. Et puis on apporte d'autres matières sonores qui s'apparentent ou pas, ou qui s'opposent à ce son, pour construire cette pièce musicale.
Tout à l'heure, nous entendrons un extrait d'une de vos œuvres et nous pourrons faire entendre ce que c'est que la musique aussi électroacoustique pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette musique nouvelle depuis, enfin nouvelle depuis quand ?
Depuis quand est-ce qu'on ? Depuis les années 60 quand même.
Depuis les années 60, donc pas si nouvelle que ça. Pour vous, dans votre désir de musique, est-ce que c'est aussi, j'ai entendu la recherche du son, de certaines formes de son, et les émotions, parce que peut-être certaines personnes, certains auditeurs qui sont habitués aux musiques de concert avec des compositeurs de Bach jusqu'au 19e siècle peuvent venir vous voir et vous dire mais où sont les émotions, cette musique est une musique faite par les ordinateurs ou à partir des ordinateurs. Qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là?
Mais C'est une musique qui n'est pas faite par les ordinateurs, c'est une musique qui est faite par moi. L'ordinateur, les nouvelles technologies sont un médium qui m'aide à réaliser cette musique, mais c'est en aucun cas l'ordinateur qui fait la musique. Il permet de faire des calculs ou de modifier des sons qui sont plus faciles à réaliser avec ces outils-là que sans ces outils. Cette musique, c'est pour moi tout le contraire d'une musique savante, d'une musique intellectuelle. C'est vraiment une musique qui, on ferme les yeux et de suite, elle fait appel à notre imaginaire. De suite, on est transporté dans un monde qui peut varier. C'est pas forcément le monde auquel on s'attend à voir nous en tant que compositeur, mais voilà, c'est une musique. On ferme les yeux et on s'évade. On est tout de suite dans l'imaginaire.
C'est ce que j'avais vécu puisque je connais votre travail. J'étais venu écouter Klang quand Klang passait à la chapelle. Et je me souviens de la présentation. On était allongés. Enfin, les auditeurs étaient au centre de la pièce ou à l'extérieur du cercle qui était formé par les haut-parleurs. Et je me souviens que je m'étais allongé sur les coussins et que je recevais les vibrations venant des haut-parleurs. La musique, c'était une musique très sensuelle. En définitive, et que l'esprit n'était pas ce que je ressentais, ce n'est pas de l'intellectuel comme ce que vous venez de dire, mais vraiment de la sensation et du plaisir physique. Est-ce que et aujourd'hui, dans quel état se trouve le réseau des musiciens acousmatiques ou en électroacoustique? Comment vous le décririez? Est-ce que c'est quelque chose qui perce, qui rencontre le grand public pour en venir ensuite à votre projet? Comment est-ce qu'on rencontre un public varié?
Qui perce, qui rencontre un public, oui. Maintenant, ça fait quand même 60 ans, enfin, ça fait quand même plus de 40 ans que cette musique, c'est 50 ans même, bientôt 60 ans que cette musique existe. si je devais faire un état des lieux, bon, c'est peut-être pas à moi à le faire, je suis quand même encore assez jeune, mais j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Beaucoup de choses à accomplir et le public n'est jamais acquis. On gagne un public comme on le perd très vite. C'est comme dans tous les publics de musique classique, dite classique. Souvent, un spectateur, on dit que les publics de musique classique sont les publics les plus durs. C'est vrai, je vois à l'opéra, s'il y a quelque chose qui déplaît, de suite, on se désabonne, on va dans un autre opéra où on crie son désarroi. Alors quand on va voir un concert de musique pop, si ça nous plaît pas, on dit bon, j'y retournerai pas, mais je vais quand même retourner voir d'autres concerts. Si on va voir un mauvais film, on dira c'était un mauvais film, je ne le re-regarderai pas, mais je continuerai à aller au cinéma la semaine prochaine. Donc c'est pas du tout les mêmes publics. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient en musique, surtout en musique expérimentale, bien sûr, qui est une musique très méconnue et qui peut paraître distante, froide, difficile à s'immerger dedans. Mais je peux vous assurer que ça dépend, il y a une grande diversité déjà dans ces musiques-là, ça dépend des œuvres, et puis c'est de toute façon une expérience à vivre non seulement, une fois au moins, mais surtout à revivre, je pense.
Justement, nous allons entendre un extrait d'une de vos œuvres qui s'appelle Back to Front et qui est pour violoncelle et ensemble d'ordinateur. Est-ce que vous pourriez présenter un peu cette œuvre avant que nous entendions un extrait, s'il vous plaît?
Alors, c'est une œuvre que j'ai composée en 2010 à Birmingham, en Angleterre. Et c'est une œuvre que j'avais composée pour mon ensemble de laptop, donc d'ordinateur portable. Que nous avions fondé avec un groupe d'amis. Et comme je suis violoncelliste, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être derrière l'ordinateur, j'ai envie d'être derrière mon instrument. Et donc voilà, c'est une musique qui part de ce son qu'on entend, qui est en fait le son de l'archer que j'écrase derrière contre le dos de mon violoncelle, qui produit ce crépitement un peu comme du feu. Et puis l'idée, c'est que tous les ordinateurs de l'ensemble reprennent ces sons pour en faire une musique et développent ce qu'on entend à l'instant.
Et que nous écoutons.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier, et vous êtes en train d'écouter Le Fil du Fer en compagnie du compositeur et directeur de festival Julien Guillemin. Nous venons d'écouter un extrait de Back to Front pour violoncelle et ensemble d'ordinateur. Nous avons, Julien, parlé dans votre conversation de notre portrait, un autoportrait, pardon, et maintenant, j'aimerais que l'on aborde le projet, une conversation sur votre projet. Votre projet qui s'appelle Klang électroacoustique. Est-ce que vous pourriez le présenter, l'année de création, les objectifs, et puis aussi nous dire, puisque c'est un festival qui continue à exister, donner ses dates?
Le festival de musique électroacoustique Klang, je l'ai créé à mon retour de Birmingham, à mon retour d'Angleterre en 2014. La première avait eu lieu dans un lieu qui a disparu malheureusement, qui s'appelait la Chapelle Gély, et qui était un lieu d'expérimentation, de tournée vers la musique, mais aussi les autres arts. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, son directeur a tout de suite accueilli le projet. Il était très emballé par le projet, et c'est là que tout a commencé, en fait. De mon côté, j'avais quand même déjà 10 ans de musique électroacoustique dans les doigts, et donc j'avais déjà un petit réseau de gens, d'amis, de grands compositeurs à qui j'avais parlé de ce projet, et qui m'ont tous dit nous, on aimerait bien participer à cette première édition, voilà, on veut voir ce que tu vas faire, ce que ça va donner, et on veut t'aider surtout. Donc c'est vrai que dans ce milieu-là, on a souvent on a la chance de pouvoir s'entraider, parce qu'on sait que c'est pas facile la musique expérimentale, et que de suite on se serre les coudes souvent. Ça a commencé comme ça, avec des grands compositeurs de suite comme John T. Harrison, Annette Van de Gorn, François Bell, Denis Mollet, voilà des noms un peu de toute l'Europe. Et puis, les pionniers surtout. Et puis, des compositeurs plus jeunes et plus locaux comme Laurent Rhodes ou Bruno Capel. Et puis, malheureusement, la chapelle a fermé la porte. Notre objectif, c'était d'en faire un festival annuel. Donc, on s'est retrouvés à chercher des salles à droite à gauche. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à continuer.
Voilà. Vous aviez 33 ans au moment du lancement du projet, du festival. Quel était votre désir? Quelle était votre motivation? Celle qui vous poussait à créer Klang? Quel est le déclencheur du projet?
Alors moi, je suis compositeur. Je suis quelqu'un qui a besoin de créer, mais je suis aussi interprète. Je suis violoncelliste. J'ai joué pendant 6 ans au Birmingham Philharmonic Orchestra dans un quatuor à cordes Highly Strung Quartet. J'ai joué la musique de chambre depuis toujours, ici à Montpellier, à Montauban quand j'y étais. L'interprétation du répertoire, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et également dans cette musique électroacoustique et acousmatique, c'est ce qui me tient à cœur aussi. Et ce festival, c'était ça aussi. C'était pouvoir jouer du répertoire, pouvoir jouer ces pièces qui m'émeuvent, découvrir aussi du nouveau répertoire et se tourner vers d'autres artistes, les rencontrer, aller à leur rencontre. Et puis... pour moi, c'est un peu une grande fête, quoi, ce festival. C'est un plaisir, c'est un bonheur qu'on partage, quoi.
Un festival, un projet, créer, monter un festival, ça demande beaucoup d'énergie, des moyens, je suppose. Et justement, de quoi aviez-vous besoin pour mener à bien et achever votre projet? C'était des contacts? Est-ce que c'était des financements, des outils institutionnels?
Alors, des financements publics, on n'en a pas eu. On a, d'ailleurs, ça devient un peu dur là en ce moment. On a eu un mécène pendant quelques années qui nous a bien aidé, vraiment. On l'en remercie d'ailleurs très fortement.
Et comment on s'appelle ce mécène, si c'est possible?
Je ne sais pas s'il veut qu'on dise son nom, mais
taisons-le.
C'était un ami anglais et qui soutenait ce projet-là, qu'il avait découvert grâce à moi et qui soutenait de tout cœur. Bon, malheureusement, il est reparti en Angleterre et c'est vrai qu'il a plus trop suivi le projet. On a fait du crowdfunding aussi, donc qui avait assez bien marché, même si j'avais quand même rajouté des sous un peu de ma poche dans ce projet-là. Et puis depuis, c'est les activités de l'association qui en fait qui paye un peu le festival. Mais le problème, évidemment, c'est que les activités de l'association ne sont pas censées payer le festival, mais payer bien d'autres choses, et notamment les interprètes et tout ça. Et donc forcément, c'est un moment un peu fatidieux. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Bon, on finit toujours par continuer. Mais c'est pas facile, hein. Il faut s'accrocher. On a aussi beaucoup d'aide de la part de l'Opéra, Orchestre National Montpellier, bien sûr, où je suis artiste en résidence, j'aurais dû le dire depuis déjà un petit moment. Et on les en remercie énormément parce qu'ils nous apportent le soutien au niveau de beaucoup de logistique, la salle en elle-même qui est magnifique. Et puis, ils supportent notre projet quand même depuis maintenant 3 ans.
Montpellier est connu pour être riche en festivals, en activités culturelles et artistiques. Et comment est-ce qu'on arrive à imposer, ou si c'est pas imposé, ou du moins à mettre dans le paysage, sur la carte, un festival comme Klang électroacoustique?
Alors c'est pas facile du tout. Je me bats, en fait c'est une bataille de tous les jours et toutes les années. C'est jamais acquis, en fait. Il faut toujours aller voilà, moi je suis pas non plus, mon métier c'est pas la communication, mais malheureusement il faut essayer de faire le maximum pour trouver un public et pour se faire connaître. Là encore, un grand merci à toute l'équipe de com de l'Opéra qui nous a énormément aidé ces 3 dernières années. La Chapelle Gély nous avait aidé aussi la première année. Puis on a eu une année au milieu où c'était beaucoup plus dur parce qu'on était vraiment tout seul pour le festival. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir des institutions comme ça derrière nous, c'est quand même un fabuleux coup de pouce que ça donne à tes projets comme ça.
Est-ce que vous pourriez dire que c'est, il y a une part de chance, ou bien alors est-ce qu'on saisit sa chance pour rencontrer, voilà, avoir ces rencontres avec l'Opéra l'Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie? Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des repas en ville? Est-ce que ce sont des connaissances, ou c'est vraiment, voilà, quelqu'un vous a entendu, quelqu'un vous a vu? Et comme il est arrivé pour, par exemple, pour des chefs d'orchestre ou d'autres artistes, d'avoir une reconnaissance qui permet de déclencher, de libérer du temps, de l'argent, d'avoir des aides, etc., etc.
Moi, je pense que justement, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. C'est un peu des deux. Il faut se faire connaître, il faut jouer sa musique, il faut l'exposer un maximum au public et à ces gens-là. Et puis ces gens qui gèrent des institutions. Et puis il faut aussi pousser les portes. Moi, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a valu d'avoir une 3 ans de résidence dans ce merveilleux endroit qu'est l'Opéra, et d'avoir des opportunités artistiques formidables tous les jours. Et donc ça vient pas à nous. Je pense que ça serait pas venu à moi tout seul. C'est aussi en poussant les portes pour exposer ses projets, exposer ses besoins, et c'est une conjoncture de deux choses, je pense, du travail fourni personnel et un coup de chance aussi, bien sûr. Il y a toujours un petit peu de chance, j'imagine.
On peut imaginer, oui, qu'il y a un coup de chance. Aujourd'hui, après l'étranger, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suède, votre travail comme compositeur d'œuvres musicales acousmatiques connaît la reconnaissance à Montpellier, on vient de le dire, avec le soutien de l'Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie. J'ai entendu dire que vous étiez en train de travailler sur une œuvre. Est-ce que c'est une œuvre qui pourrait être diffusée lors de Klang électroacoustique, ou bien est-ce que vous travaillez sur une matière sonore complètement différente?
Alors là, le prochain gros concert, je pense que c'est ça dont vous parlez, le 30 novembre à l'Opéra Berlioz, c'est une commande de l'Opéra Orchestre, une commande pour l'orchestre. Donc en fait, c'est une œuvre symphonique. une petite œuvre symphonique, mais c'est déjà un énorme travail. Et donc, oui, il y aura un haut-parleur quelque part. Si c'est la question, bien sûr, il y aura un médium électroacoustique. Je ne change pas de cap, mais j'ai toujours composé pour les instruments. On l'a entendu dans cet extrait juste avant. Et ça continuera. Là, c'est vrai que c'est un projet, un gros projet, ambitieux, mais j'adore ça, quoi. C'est un outil fantastique, l'orchestre.
De la passion. Et aussi de la passion. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Klang? Comment vous souhaiteriez le voir évoluer?
Alors là, ben justement, je pense qu'on arrive dans un passage charnier pour une charnière. Pour Klang. C'est sans subvention, sans aide. Je pense que là, il va falloir repenser la manière dont on veut travailler. Mais en tout cas, c'est un festival qui va continuer à exister puisqu'il a un public et c'est un festival qui doit peut-être pas se fermer à de nouvelles choses et évoluer. Et donc, surprise, on verra.
Surprise, on verra. On arrive vers la fin de l'émission. Quelques questions encore. Qu'est-ce que le parcours du projet Klang électroacoustique, de l'idée qui émerge à sa concrétisation, a transformé chez vous, du point de vue humainement parlant ?
C'est beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres de public, mais d'artistes aussi, des collaborations, des projets fantastiques et des nouvelles opportunités. C'est ma nourriture un peu, donc si j'avais pas cette passion, ça n'irait pas.
Julien Guillama, au moment de me dire au revoir, et après avoir annoncé que Klang électroacoustique se déroulera du 5 au 9 juin à Montpellier, à l'Opéra de Montpellier, 5 au 9 juin 2019, je vous laisse reprendre la citation que vous avez apportée pour illustrer notre conversation.
Alors, peu importe les notes, en musique, ce sont les sensations produites qui comptent. C'est une citation de Leonid Peromaïski.
C'était le fil du fer, où l'on entend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères auditrices et auditeurs, à bientôt, et n'hésitez pas à oser.